Badania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Ils sont quatre, Google, Apple, Facebook, Amazon, on les appelle les GAFA. Parfois, on ajoute le M de Microsoft et les GAFA deviennent alors les GAFAM. Ces sociétés, toutes américaines, sont entrées dans nos vies plus ou moins insidieusement. Mais aujourd'hui, elles sont sous la pression de l'Union européenne qui leur reproche principalement deux choses. D'abord, de ne pas payer d'impôts ou très peu en pratiquant l'optimisation fiscale à outrance. Et deuxièmement, de confisquer à leur profit exclusif les données personnelles des utilisateurs. Sur ces deux points, la riposte s'organise de Bruxelles, siège des institutions européennes et notamment de la Commission. Mais comme souvent, les Européens ont bien du mal à se mettre d'accord. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Eva Joly.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée Europe Écologie Les Verts en France, mais Les Verts dans tout le reste de l'Europe.
Oui.
Et particulièrement impliquée sur les problèmes de numérique, tant sur la fiscalité que sur les données personnelles. Éric Léandri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Quant. Quant n'est pas encore si connu que ça et pourtant c'est le moteur de recherche européen. Pourquoi vous n'êtes pas si connu?
Il faut du temps pour prendre sa place et là, comme ça commence à aller très bien au point de vue des résultats, on va accélérer.
Bonjour Thomas Doutieu.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et à mes côtés, bien évidemment, Clémentine Forissier. Bonjour,
bonjour
Clémentine. Vous êtes la rédactrice en chef du site de politique française et européenne, contexte.com, un site de plus en plus référent pour tous ceux qui s'intéressent à la vie des institutions européennes, mais pas seulement.
Et des institutions françaises aussi.
Vous remarquerez qu'aucun représentant des GAFA n'est présent autour des micros de Carrefour de l'Europe. Ce n'est pas faute de les avoir contactés, mais aucun n'a souhaité participer à cette émission. Certains n'ont même pas répondu à notre demande. Même leur représentant à Bruxelles, Digital Europe, a décliné notre invitation. Eva Joly, cette attitude vous surprend-elle?
C'est assez classique. Ils refusent aussi les invitations pour comparaître, si je peux dire, ou apparaître devant les commissions d'enquête européennes taxes.
Vous voulez dire que j'étais traité exactement comme un eurodéputé?
Vous êtes traité exactement comme la commission d'enquête européenne.
Bon, c'est plutôt flatteur, on va dire ça comme ça. Ouais. Dans son discours sur l'Europe à la Sorbonne en septembre dernier, Emmanuel Macron a rappelé quels étaient les enjeux du marché unique du numérique pour la France et pour l'Europe.
Le projet du marché unique du numérique est à ce titre une occasion unique que nous devons saisir pour construire les modalités qui nous permettront de défendre les règles qui protégeront les libertés individuelles et le respect du secret auquel chacun a droit, qui permettra de protéger les données économiques de nos entreprises et qui permettra de créer précisément la régulation européenne qui tout à la fois protégera les personnes, les entreprises de manière légitime, qui permettra aux acteurs européens d'émerger dans un marché loyal et qui permettra aussi de compenser les profondes désorganisations sur l'économie traditionnelle que cette transformation parfois crée.
Les enjeux de la société numérique, résumés en quelques mots par Emmanuel Macron. Clémentine Forissier, on va revenir dans un deuxième temps sur le fait que les GAFA, qui sont la partie émergée de l'iceberg du numérique, ne payent pas d'impôts ou très peu, mais le numérique, ce sont d'abord des données. Et ce que les utilisateurs de Google ou de Facebook ont découvert, c'est que ces plateformes collectaient à notre insu des milliers de données sur nous, notre vie, nos goûts, qui étaient par la suite réutilisées ou revendues, d'où cette formule qui fait Flores depuis quelque temps, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors ces données sont devenues un enjeu fantastique.
Ces données sont un enjeu fantastique. Il y a des gens qui disent que c'est l'or noir du 21e siècle. Et je pense que tout le monde l'a bien en tête. Et c'est vrai que les Européens se sont emparés de ce sujet. Alors, le sujet des données, on va en reparler en parlant du RGPD, peut-être un petit peu plus tard. Peut-être revenir un instant sur ce que c'est que ce marché unique du numérique dont la donnée est le cœur, je dirais. En fait, c'est une série d'initiatives, une vingtaine d'initiatives initiatives qui ont été présentées par la Commission européenne en 2015, qui se sont traduites par une multitude de textes qui portent sur les sujets que Emmanuel Macron décrivait là. C'est plus le temps passe, plus il s'en rajoute, hein, parce que là, dernièrement, il y en a un tout nouveau dont tout le monde a entendu parler, c'est les fake news. Ça aussi, ça rentre dans la question du marché unique numérique, même si on parle d'information. Voilà, c'est une espèce de sujet qui finalement est énorme et qui est au cœur du travail de cette Commission européenne, mais qui avait déjà commencé finalement lors de la précédente mandature.
Éric Landry, alors, Quant est le moteur de recherche européen, je l'ai déjà dit, j'aurai l'occasion de le redire au cours de cette émission, et une des caractéristiques de Quant, c'est que justement sur le thème des données, Quant se vante, explique qu'elle n'utilise pas les données de ses utilisateurs, ce qui fait évidemment une grande différence avec Google, par exemple.
Oui, nous garantissons la vie privée, de toute façon, nous sommes privacy by design et privacy by default.
Alors,
comme on était en Europe, on y allait. Ce qui veut dire tout simplement qu'on garantit par design de notre infrastructure, avec la façon dont on l'a créée, que la vie privée va être protégée. Et par défaut, ça veut dire que quand vous arrivez sur Quant, par défaut, on ne prend évidemment aucune de vos données. Alors chez nous, c'est plus facile que chez d'autres, puisqu'on ne vous demandera de toute façon jamais vos données, puisqu'on ne les conserve absolument pas, et qu'on vous protège dès que vous arrivez sur le site, et on garantit votre vie privée, à tel point que, vous savez, cette IP, cette adresse que vous avez sur Internet, ce numéro Internet qui pourrait correspondre à votre numéro de téléphone, quand vous arrivez sur Quant, on le hache et on le salte, c'est-à-dire qu'on le transforme, on le chiffre, et on n'a plus aucun moyen de revenir à vous. Donc vraiment, quand vous arrivez sur Quant, vos données, c'est les vôtres, c'est pas les nôtres.
On va dire un petit mot sur Quant qui n'est pas assez connu. C'est une aventure industrielle française puis européenne assez exceptionnelle. Alors, je ne veux pas vous demander de raconter toute l'histoire de Quant, mais en quelques mots.
Nous avons créé la société en 2011, déposé des brevets jusqu'à 2013, lancé le 4 juillet 2013 officiellement, c'est le jour de l'indépendance aux États-Unis, ça nous faisait rire. Puis lancé en Allemagne où le groupe Axel Springer est venu nous rejoindre en 2014. Et enfin, 2015, la Banque Européenne d'Investissement est rentrée aussi au capital pour le 1er janvier 2016, exactement. Et puis, c'est l'année dernière, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui est rentrée chez nous. Et pendant toutes ces années où les gens rentraient au capital de Quant, nous sommes passés d'un million de visites uniques en 2013 à 60 millions de visiteurs uniques le mois dernier, avec une croissance de 20% par mois en ce moment. Ça, je vous dis, on accélère.
Donc, ça monte, ça monte, ça monte.
Exactement. Et là, ça monte très fort.
Alors, aujourd'hui, Quant se présente comme une alternative à Google au niveau des moteurs de recherche. C'est ça le...
Et on le sera toujours. Ce que l'on veut, c'est 5 à 10% du marché européen en donnant une alternative aux gens, en leur donnant le choix. Nous, on va pas détruire une boîte qui fait 650 milliards de valorisation. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vous donner le droit de chercher sur Internet sans être le sujet de la recherche. Vous avez le droit de chercher pendant 15 minutes. Un peu de vie privée chez vous, vous y avez droit. Un peu de vie privée sur Internet, allez, essayons d'y avoir droit aussi.
Alors, Thomas Audotieu, la protection des données a très tôt intéressé la CNIL. C'est même ce qui justifie l'existence de la CNIL. Ça a d'abord été, non pas une préoccupation européenne, mais une préoccupation française.
Oui, tout à fait. La France a été l'un des tout premiers pays européens à se doter d'une législation pour concilier l'informatique et les libertés publiques individuelles qui date de 1978. Donc, on a fêté les 40 ans de la loi et de la CNIL cette année.
Et petit à petit, ces préoccupations sont devenues européennes. Il y a eu des homologues en Allemagne, en Italie, en Espagne, de la CNIL.
Alors tout à fait, c'est un sujet qui n'est pas resté franco-français, qui a essaimé en Europe. De plus en plus d'États se sont dotés de législations nationales visant à protéger les données. Et on arrivait en 95 à l'adoption d'une directive pour prévoir un socle commun au sein de l'Union européenne sur ces sujets. Et puis cette directive, avec l'évolution du numérique, d'Internet, la montée en puissance d'acteurs internationaux s'est révélée dépassée, un petit peu insuffisante. Et donc on est arrivé à l'adoption en 2016 du fameux RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données, qui va rentrer en application dans quelques jours.
Alors, Yves, je lis justement ce RGPD. C'est un sigle, pour l'instant, un peu, on va dire, mystérieux, peu connu, mais qui va entrer petit à petit, très rapidement dans la vie des Français et des Européens. Oui. Il va y avoir une petite révolution dans 5 jours, très exactement le 25 mai, c'est que la RGPD va s'imposer à tous les Européens. Mais qu'est-ce que la RGPD, Yves?
joli.
Bon, elle va s'imposer à tous les Européens, mais pas que. Elle va s'imposer à toutes les sociétés qui collectent des données en Europe. Donc, elle s'impose aussi à Google, Facebook et tous les autres. Donc, c'est ça qui est aussi très important. Alors, c'est donc des nouveaux droits que cette régulation propose pour les citoyens. C'est des nouvelles sanctions dont la CNIL va disposer, parce que jusqu'à maintenant, les sanctions étaient plutôt faibles, et surtout pour des bénéfices gigantesques qui font les GAFA. Et donc maintenant, en cas de non-respect de la nouvelle réglementation, qui suppose que l'internaute donne son consentement explicitement à l'utilisation de ces données. Ça, c'est très clair dans le texte, ce n'est pas implicite, ça ne peut pas être parce que vous cochez en bas à droite au bout de 20 pages.
Que vous n'avez pas lu.
C'est un petit message en texte clair, simple, dit le texte. Et donc, c'est aussi interdit de conditionner l'accès aux services au fait que vous acceptez d'être pillé de vos données personnelles. Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Si vous allez sur Google, ils vont prendre tous vos données. Dans le nouveau texte, ces données sont limitées à ce qui est nécessaire pour effectuer les services que vous demandez.
Alors, est-ce qu'il s'agit des nouvelles données ou celles qu'on a déjà données à Google, Facebook ou les autres? Celles-là, elles sont déjà dans la machine, dans les grands serveurs, et de toute façon, ça s'est perdu.
Je pense que ça, c'est vrai qu'on va pas revenir en arrière, mais c'est à partir de maintenant, il y a donc des nouvelles règles qui sont beaucoup plus protectrices pour les citoyens. C'est aussi la transportabilité de vos données. Vous pouvez changer justement et aller chez Quant avec toutes vos traits historiques si vous voulez. Vous pouvez transférer votre boîte mail avec aussi tous ces contenus sans que vous ayez vous-même à manipuler les données. Donc ça, c'est des éléments très importants, mais surtout donc les nouvelles sanctions qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros. Et donc ce n'est plus une plaisanterie.
Ça va faire réfléchir. Avant, effectivement, il y avait des amendes qui étaient possibles, mais c'était quelques dizaines de milliers d'euros.
Voilà,
ça faisait rire.
Ça faisait rire, évidemment.
Bon. Et alors, c'est vous la CNIL, en France en tout cas, qui est susceptible, si j'ai bien compris, qui allait devenir le gendarme de la RGPD. La RGPD, je rappelle, le règlement général de la protection des données personnelles.
Alors, le gendarme, pas que, parce que c'est vrai que les autorités de protection ne sont pas là que pour sanctionner, mais elles sont là, en effet, pour faire respecter le règlement. Je pense que y a deux éléments très forts dans le règlement. Le premier élément, on l'a dit, c'est un renforcement des droits des personnes. Donc, les droits qu'on connaît depuis 118, droits d'accès, de rectification, d'opposition, tout ça, ces droits-là sont renforcés. Et il y a de nouveaux droits qui sont créés. On a parlé du droit à la portabilité. On parle beaucoup de l'innovation technique. Là, c'est de l'innovation juridique. Donc, on va voir ce droit, ce qu'il va donner. C'est un droit extrêmement important. Et puis, deuxième axe du règlement, c'est permettre aux Européens de recouvrir une sorte de souveraineté numérique. Donc on l'a dit aussi, ce règlement, il va s'imposer aussi aux opérateurs qui ne sont pas en Europe, mais qui ciblent les consommateurs européens. Donc une boîte qui est située outre-Atlantique et qui vise les consommateurs européens parce qu'elle aura un site en français, qu'elle acceptera d'être payée en euros, etc. Quand bien même elle n'aura pas de localisation en Europe, elle devra respecter le règlement général sur la protection des données de façon à garantir à ses consommateurs, aux citoyens européens, des droits. Donc ça, c'est le premier aspect.
C'est assez contraignant.
Alors c'est contraignant. En même temps, ça commence à devenir un facteur de différenciation entre les sociétés, parce que on espère que ça va enclencher un cercle vertueux de mieux-disance en matière de protection des données. Puisque les Européens protègent leurs données, je vais me mettre au niveau, quand bien même je suis situé sur un continent asiatique, nord-américain, etc., parce qu'il y a une demande des consommateurs et je vais essayer d'en faire un argument discriminatoire. On espère que ce règlement va devenir une sorte de standard en matière de protection des données, et au-delà de son aspect purement juridique, va essaimer en tous les cas des concepts intéressants à travers le monde.
Clémentine Forestier, ce qu'on remarque à travers les propos d'Eva Joly et de Thomas Dautieux, c'est que l'Europe paraît très en avance sur la surface du globe par rapport aux Américains, par rapport aux Asiatiques.
Sur ce sujet, oui. Et alors, l'Europe, elle espère toujours qu'elle fera des petits dans ce genre de situation.
Elle compte toujours sur son hypothétique universalité.
Exactement. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le RGPD est devenu un peu trendy, tendance, quoi. Et notamment, alors je rigole en disant ça, mais il y a eu récemment, vous en parliez au début de l'émission, cette histoire de Cambridge Analytica. Donc en fait, il y a une société qui a récolté les données d'utilisateurs de plus de 80 millions d'utilisateurs de Facebook, et ces données ont servi, ou auraient servi, en tout cas, à influencer en fait les électeurs pendant la campagne des élections américaines. Et ça marque les consommateurs, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus seulement les Européens dans leur coin, c'est que on se rend bien compte à quel point nos données peuvent servir, être manipulées, et ça, aux États-Unis, ça laisse pas indifférent. Et en fait, je pense que c'est par ce biais-là aussi que les Européens vont pouvoir peut-être être influents. C'est-à-dire qu'il y a aussi des scandales qui aident, je dirais, à faire progresser la protection des données.
Eva Joly.
C'est aussi Brexit qui a été manipulé. C'est-à-dire que on voit que ça touche au cœur de la démocratie et que le référendum sur la sortie de l'Angleterre ou de United Kingdom de l'Union européenne, ce qui était c'est pas n'importe quoi, a été manipulé par Cambridge Analytica. On a ciblé des messages en ayant une connaissance intime qu'on n'aurait pas dû avoir des électeurs. Donc on a pu accentuer leur racisme, par exemple, ou leur xénophobie, ou leur détestation de l'Union européenne. Et donc c'est gravissime. Et il faut rappeler que Mark Zuckerberg, lorsqu'il était entendu devant...
Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook.
Voilà, devant la commission d'enquête du Sénat américain, qui a beaucoup de pouvoir, il a rendu hommage au RGPD en disant que c'était vraiment ça qu'il fallait faire pour Facebook, peut-être volontairement.
Éric Léandry, on se rend compte que les données personnelles, leur protection, c'est centrale dans la vie qui se prépare à nous et aux jeunes générations. D'entrée de jeu, c'était une dimension que Quandt a imaginé, je dirais, philosophiquement, politiquement, citoyennement ou pas?
Non, c'était une approche clairement éthique et philosophique. Et donc, la première chose que l'on a fait chez Quandt, c'est commencer à vous dire que vous avez le droit de chercher sur Internet sans que l'on ait accès à quoi que ce soit vous concernant. Pour une raison simple, je vais vous donner quelque chose de moins trendy, mais qui sous-tend tout le RGPD et toute l'Europe, en réalité, c'est les droits de l'homme. Voilà, 1948, les droits de l'homme, l'article 12 des droits de l'homme, c'est le droit à la vie privée. Donc le droit à la vie privée, c'est un droit qui devrait être inaliénable pour l'ensemble de l'humanité. Donc les 7,2 milliards de personnes offline qui sont pas sur Internet, et les 3 milliards de personnes qui sont sur Internet. C'est le même droit. Et à tel point qu'en 2013, ce droit a été transposé par les Nations Unies à l'Internet. Donc nous, on s'est basé là-dessus, et on est parti sur cette éthique-là, et on s'est dit, tiens, on va vous donner le droit d'aller sur Internet sans être traqué du début, parce que c'était déjà là. Sauf que personne ne voulait le voir, personne ne voulait le lire, et personne n'avait envie d'appliquer les droits de l'homme sur Internet, parce que ça rapporte des fortunes, ça permet de tricher sur des élections, ça permet plein d'autres choses. Et franchement, vous interrogez Monsieur Mark Zuckerberg, parfait, il a dit que le GDPR c'était très bien, et le RGPD était très bien, et qu'il fallait donc aller vers là, sauf qu'il y a 10 jours, les nouvelles réglementations de Facebook sont été appliquées, donc si vous avez Facebook, vous avez eu droit à tout un tas de questions, et si vous aviez cliqué à la fin sur « vous avez d'autres options », vous cliquez là-dessus, et la dernière option qui vous restait, c'était de vous désabonner. C'est l'inverse du choix. Donc, en l'occurrence, il a peut-être compris qu'il fallait dire que c'était très bien de faire attention à la vie privée des gens, mais il a aussi compris qu'il fallait surtout pas qu'il change de business model, parce que comme ça, il gardait sa valorisation de 400 milliards. Et dans le cas de Google, qui fait exactement la même chose, mais à l'intérieur du système, et qui a encore plus de data sur vous, parce que vous confiez tout à votre moteur de recherche, lui, c'est une valorisation de 650 milliards qu'il a à perdre. Parce que quand il ne prenait pas vos données personnelles, il valait 120 milliards à la bourse. Donc 450 milliards à perdre dans le cas où il repasse à un business model qui serait éthique et qui vous respecterait. Je peux vous dire qu'ils vont mettre tous les moyens en leur possession, comme les avocats, comme tout un tas d'actions sur le Parlement, tout un tas de lobbyistes, pour éviter de perdre 500 milliards de valorisation. C'est juste pas possible.
Et d'ailleurs, ils n'ont pas souhaité participer à cette émission, c'est peut-être une explication. Ouais, on est en train de comprendre que le numérique et ce qui se passe en ce moment va être déterminant pour les citoyens du monde et bien sûr pour les Européens. Mais on va néanmoins faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Pania europejskie.
Rozumiem tu d'Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa. The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Ils sont quatre, Google, Apple, Facebook, Amazon, on les appelle les GAFA. Parfois, on ajoute le M de Microsoft et les GAFA deviennent alors les GAFAM. Ces sociétés toutes américaines sont entrées dans nos vies plus ou moins insidieusement, mais aujourd'hui, elles sont sous la pression de l'Union européenne qui leur reproche principalement deux choses. D'abord, de ne pas payer d'impôts ou très peu en pratiquant l'optimisation fiscale à outrance et deuxièmement, de confisquer à leur profit exclusif les données personnelles des utilisateurs. Sur ces deux points, la Ripote s'organise de Bruxelles, siège des institutions européennes et notamment de la Commission. Mais comme souvent, les Européens ont bien du mal à se mettre d'accord. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Eva Joly, eurodéputée Europe Écologie les Verts au niveau européen. Éric Léandri, président de Quant, le moteur de recherche européen qui commence à tailler quelques croupières à Google. Thomas Dautieu, il est directeur de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et Clémentine Forissier, rédactrice en chef du site des politiques françaises et européenne, contexte.com. Avant de reprendre notre débat, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Courrier International a consacré de nombreux articles sur les GAFA et vous avez retenu, Sacha, un papier paru dans le quotidien britannique The Guardian qui explique que les géants du numérique sont devenus de tels mastodontes qu'il faudrait peut-être envisager de les démanteler.
Pétrole et Big Data, même combat. C'est la question que se pose Larry Elliott, chef du service économique du journal britannique. Il compare dans un article la position dominante de Facebook à celle de la Standard Oil. Après être parti d'une petite raffinerie de Cleveland, cette entreprise américaine produisait 87% du pétrole raffiné au tournant du XXe siècle, à tel point que la Cour suprême, en 1911, avait décidé que Standard Oil enfreignait la loi antitrust et qu'elle devait être démantelée. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour réclamer le même sort pour Facebook, Google et Amazon. Les raisons sont multiples. D'abord, on peut considérer que les données sont aujourd'hui aussi essentielles pour l'économie que le pétrole il y a 100 ans. Surtout, les géants de la Silicon Valley jouissent du même type de monopole et en usent pour étouffer la concurrence. En fait, les startups d'hier, écrit The Guardian, sont devenues les anticapitalistes d'aujourd'hui. Elles réduisent la concurrence, ce qui est toujours contraire à l'intérêt de la population. C'est ce que disait Adam Smith, chantre du libéralisme économique.
Alors ça, c'est un peu la théorie, Sacha Mitchell, mais est-ce qu'il est possible concrètement d'imaginer un démantèlement de ces mastodontes du numérique?
Eh bien, pas en l'état actuel. La législation antitrust américaine avance des critères stricts et ne permet pas d'intervenir simplement parce qu'on juge une société trop grande. Ce qui compte, c'est qu'elle profite de sa taille pour nuire aux intérêts des consommateurs. Or, c'est un point qui va être difficile à prouver. Par exemple, on ne peut pas dire que ces sociétés n'investissent pas dans des nouveaux produits puisqu'elles consacrent toutes les trois une part impressionnante de leur chiffre d'affaires à la recherche et au développement. Aussi parce que Google et Facebook sont gratuits. Enfin, gratuits, bien sûr, l'accès à Facebook et Google ne le sont pas vraiment. Certes, les consommateurs n'ont rien à débourser, mais ils doivent accepter que leur activité en ligne soit constamment surveillée afin que les annonceurs puissent personnaliser leurs messages. Pour The Guardian, parce qu'on commence à prendre conscience de ce pacte qualifié de faustien, c'est à ce moment-là que des voix s'élèveront pour appeler à une modification de la politique américaine. Mais pour ça, il faudra encore un profond changement idéologique. Pour les Américains, le fait qu'un gagnant rafle tout sur un marché donné reflète simplement la loi de la jungle capitaliste. Pour les Européens, en revanche, c'est intrinsèquement dangereux pour les consommateurs. Dans l'immédiat, du coup, ce qui paraît le plus probable, c'est une action sur deux fronts. Outre-Atlantique, un durcissement de la réglementation des grandes sociétés du secteur assorti de la menace, et seulement de la menace, d'une mesure antitrust.
Merci Sacha, Courrier International, l'hebdo, courrierinternational.com, le site. Éric Léandri, je vous ai vu faire des petits signes en écoutant le compte-rendu un peu de ce papier du Guardian.
Là, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un qui est vraiment intéressant, c'est que c'est juste faux aux US. Aux US, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 60%. 70% du marché. Là, vous tombez sous l'antitrust et vous serez démantelé. Et Google aux US a 62% du marché. Donc c'est chez nous qu'ils ont le droit d'avoir 95% ou 98% du marché à partir du moment où ils n'en abusent pas. Parce qu'on vient de situations où nous avions des monopoles comme EDF, France Télécom, qui ont dû être démantelés. Donc chez nous, vous avez le droit d'avoir 98% du marché tant que vous n'en abusez pas de votre position ultra dominante. Et donc c'est pas tout à fait qu'aux US, le gagnant doit tout avoir. Non, c'est faux aussi. Il a tout. Alors il sera démantelé. Et donc aucun d'entre eux ne va jouer à tout avoir. Simplement pour le reste, sur les données personnelles, je suis plus que d'accord avec le Guardian. Et juste, il n'y a pas que le Guardian. Aujourd'hui, vous avez Tim Berners-Lee, qui a fondé l'Internet, enfin en tout cas qui est un des pères de l'Internet. Il dit tout simplement qu'aujourd'hui, l'Internet d'aujourd'hui, c'est un Internet qui commence à être capté. Vous savez pourquoi on a fait Quant ? On a fait Quant parce que quand Google a dit « je ne suis plus un moteur de recherche, mais un univers », il a commencé à créer son univers. Les vidéos, c'est YouTube maintenant, il n'y a plus Dailymotion dans les réponses. Le shopping, c'est Google Shopping. Le travel, ça y est, ça arrive, c'est Google Travel. Les images, ils ont même fait tout un tas d'idées pour avoir capté toutes les images. Ça part un peu en arrière, merci les CNIL. Mais en tout cas, c'était leur idée. Et l'idée globale de tout ça, c'est tout simplement de fermer le web. C'est plus Internet, c'est plus ouvert à tout, c'est ouvert à eux. C'est eux qui choisissent ce que vous verrez, c'est eux qui choisissent ce qu'on va vous pousser, c'est eux qui choisissent Facebook, Google, même principe, même combat. Ils vous poussent ce qu'ils veulent. Les fake news, c'est une bulle dans laquelle je vais vous pousser ce qui vous semble le plus intéressant à vous. Donc si vous croyez aux extraterrestres, sachez que vous allez en voir plein. Il n'y a pas de problème, vous n'aurez que les articles qui parlent d'extraterrestres. Alors que si vous avez l'ensemble du résultat de l'Internet, vous verrez qu'il y a peut-être deux personnes qui parlent des extraterrestres, les autres parlent d'autres choses. Ils sont peut-être là, mais c'est pas le cas.
Et Eva Joly, la comparaison entre la Standard Oil que faisait l'article du Guardian, c'est-à-dire plus connue sous la marque de d'essence Esso, et Facebook, par exemple, prend-elle tout son sens aujourd'hui?
Je pense, parce que la richesse aujourd'hui, elle est totalement immatérielle. Avant, il fallait construire des ponts, des routes, des raffineries, c'était concret. Aujourd'hui, l'économie, elle est immatérielle. Donc, c'est exactement la même problématique. Mais ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, il est possible de surveiller tout le monde. Et une surveillance vraiment...
Big Brother is watching you.
C'est Big Brother, c'est une société panoptique. Et je suis très heureuse que nous ayons un alternatif à Google, français en plus, donc éthique. Et j'ai appris avec une énergie verte, donc il ne faut pas hésiter d'aller sur Quant. Parce que cette société panoptique, pas simplement limite, nos expériences, nos connaissances, elles nous manipulent et elles vident la démocratie, comme nous l'avons vu avec l'affaire Cambridge Analytica.
Et c'est donc, peut-être c'est encore gravissime. Ce qui est le plus dangereux au-delà.
Absolument. Elle est plus dangereuse que Standard Oil parce qu'il y a le lien entre Google et la NSA. La NSA aujourd'hui, c'est National Security Agency qui a été créée après le September 11, 2001, et qui est partie de quelques centaines de salariés pour aujourd'hui frôler les 50 000, je pense, et avec une capture du contenu de vos correspondances sur le net, ils ont tous les éléments, c'est vraiment les big data, avec toutes les implications que cela a. Et je vous rappelle que Edward Snowden a sacrifié sa vie, si je peux dire, sa vie sociale, sa vie d'homme libre, pour que nous le sachions, pour que nous comprenions ce que cela veut dire. Et il faut vraiment re-regarder Citizen Four si vous ne l'avez pas vu pour comprendre que l'idée que moi je n'ai rien à cacher, elle est complètement folle.
On l'a dit tout à l'heure, vous allez recevoir Mark Zuckerberg au Parlement européen. Quelle question vous aurez envie de lui poser, Eva Joly?
Mais ce qu'il entend faire pour justement limiter les connexions entre Facebook et la CIA ou la NSA, de fait, que donner des assurances aux citoyens que les éléments qu'ils fournissent bêtement mais volontairement ne puissent être exploités contre eux.
Thomas Dutilleux, vous n'êtes pas eurodéputé, donc vous n'aurez pas Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, sous la main devant vous. Mais si vous étiez eurodéputé, quelles questions vous aimeriez poser à Mark Zuckerberg?
Très concrètement, il y a un enjeu de mise en application du RGPD très rapidement.
Donc, règlement général des protections
sur la protection des données. Qui crée de nouveaux droits et change un petit peu la logique dans laquelle les données sont traitées. Et il va être intéressant de voir comment est-ce que toutes ces plateformes numériques qui vivent sur l'exploitation des données vont concrètement rendre une partie du pouvoir aux citoyens en mieux les informant et en leur permettant de faire des choix qui sont éclairés. Ça va être intéressant à voir. Et la force qui va être du côté européen, c'est que ce règlement prévoit un mécanisme de coopération entre les CNIL. C'est vrai que j'évoquais il y a quelques instants la directive de 95, une de ses faiblesses, c'est qu'elle n'organisait pas de coopération. Donc ces grands acteurs nous disaient, écoutez, c'est très bien votre législation sur la protection de données, mais en Irlande on dit une chose, en Allemagne on dit autre chose, en Espagne une troisième chose, moi je m'y retrouve pas, et dans une certaine mesure c'était vrai, maintenant ce sera plus vrai, parce que le règlement va forcer les CNIL à coopérer et avoir une position commune. Donc un acteur nord-américain qui posera une question ou fera l'objet d'un contrôle, d'une sanction, eh bien il aura une réponse unique ou une position unique au niveau de l'Union européenne. C'est une des grandes forces du RGPD.
Alors le RGPD... Eva Joly, vous en êtes un peu à l'origine, pas complètement, en tout cas c'est le groupe auquel vous appartenez.
Le groupe des Verts a eu pour ce problème-là une attitude très stratégique, parce qu'il faut savoir qu'au sein du Parlement européen, il y a une bataille pour être le rapporteur. Le rapporteur a une influence déterminante sur le texte législatif. Et nous les répartissons selon un système mathématique qui s'appelle DONT, et où les grands groupes disposent d'armes redoutables pour les petits groupes. Mais comme il y a une forme de justice, à un certain moment, vous avez assez de nombre de points pour pouvoir acheter le rapport. Et donc les Verts se sont abstenus de solliciter aucun rapport en attendant le texte des RGPD.
Donc stratégique et tactique alors, les deux.
Stratégique et tactique, et c'était notre rapporteur Jan Albrecht, à qui je veux vraiment rendre hommage aujourd'hui. C'est un Allemand qui était très compétent, très dédié et qui a fait un boulot fantastique. Il a été aidé par le scandale Snowden, qui a fait que même les conservateurs, qui étaient très hésitants au début, avec l'affaire Snowden, ils ont changé d'avis et on a pu construire une majorité autour de ce texte.
Clémentine Forissier, contexte.com. Est-ce qu'on peut dire que la RGPD, donc le règlement général des protections des données, c'est un peu comparable à ce qu'a été la directive REACH sur la protection des citoyens contre les risques liés aux substances chimiques? Est-ce que c'est un peu comparable, un peu emblématique de ce que l'Europe peut faire?
Ce qui est sûr, c'est que c'est un règlement qui touche un nombre de... qui touche tout le monde, en fait. En fait, là, c'est pas l'Europe contre les GAFA, c'est vraiment l'Europe veut essayer de protéger les données de ses citoyens, parce que ça touche aussi bien le commerçant dans votre quartier, ça touche aussi les données sur les ressources humaines, par exemple, dans votre entreprise. Enfin, c'est pas simplement juste on répond à un jeu sur Internet et on veut pas que notre email soit capté. Je caricature à dessein. Donc c'est la plus grande législation de protection des données depuis 20 ans. Donc c'est vraiment très important. Effectivement, et REACH, pour ceux qui savent peut-être pas ce que c'est un règlement qui était une sorte de législation tentaculaire sur les produits chimiques et la réglementation des produits chimiques en Europe. Et c'était vraiment un objet de lobbying d'ailleurs énorme. Ça a mis des années à être conclu et c'est à mettre en œuvre. C'était assez compliqué, etc. Mais c'était aussi c'était aussi très important. Là, ce qui est peut-être, je sais pas si on peut comparer. En tout cas, là, clairement, le RGPD touche les gens vraiment dans leur vie quotidienne de façon peut-être plus visible pour eux que ne l'était la législation sur REACH.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desescal.
Carrefour de l'Europe, l'Europe contre les GAFA. Nous sommes avec Eva Joly, eurodéputée, Europe Écologie Les Verts en Europe, avec Éric Léandry, le président de Quant. Quant, ça s'écrit Q-W-A-N-T, parce que c'est pas forcément compréhensible à la radio. Quant, le moteur de recherche européen. Thomas Dautieu, directeur de la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Et Clémentine Forissier, rédactrice en chef du site des politiques européennes, contexte.com. Alors, longtemps, Facebook, Google, Twitter ont généré beaucoup de sympathie parce que leur service service était gratuit, il faut le dire, bien emballé et très performant. Il a fallu un peu de temps pour que les utilisateurs comprennent que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. J'aime bien la formule, j'ai réemploi. Les choses se sont un peu gâtées lorsque les citoyens se sont aperçus que ces sociétés ne payaient pas d'impôts ou si peu grâce au système légal, mais scandaleux, de l'optimisation fiscale. Un scandale qui n'a pas échappé non plus à Emmanuel Macron. Un extrait de son discours sur l'Europe à la Sorbonne, c'était en septembre dernier.
Les grandes plateformes numériques, la protection des données sont au cœur de notre souveraineté à cet égard. Et il en est de même pour la taxation. Nous devons avoir ce débat. Pourquoi ? Parce que je crois très profondément dans cette économie de l'innovation. Je crois très profondément dans un monde ouvert. Mais le monde ouvert ne vaut que si la concurrence qui s'y joue est loyale. Et nous ne pouvons pas accepter d'avoir des acteurs européens qui sont taxés et des acteurs internationaux qui ne le sont pas, des acteurs du numérique qui n'ont aucune taxe et qui viennent concurrencer des acteurs de l'économie traditionnelle qui eux la payent.
Eva Joly, j'ai en mémoire le scandale Airbnb, la plateforme de location de logements de vacances qui, en France, payait quelques milliers d'euros d'impôts via ce système d'optimisation fiscale. C'est évidemment la même chose pour les GAFA, mais en plus gros.
Oui, il faut se souvenir de Apple qui payait 0,01% d'impôts grâce à un accord avec le fisc irlandais. C'est pas simplement le taux irlandais, c'est un rescrit fiscal.
Parce que le taux irlandais, il est officiellement
de 12,5%. Et donc l'Union européenne, en utilisant la législation concurrence, Margaret Vestager a calculé la différence entre 12,5 et 0,01. Et ça fait 13 milliards. Et l'Union européenne a donc taxé Apple, non pas pour fraude fiscale, c'était pas dans ses compétences, mais pour avoir faussé la concurrence à hauteur de 13 milliards.
Pour un arriéré d'impôt, on va dire.
Pour la différence entre l'impôt qu'ils auraient dû acquitter et le rescrit fiscal très illégitime qu'ils avaient. Et on s'est aperçu avec le scandale LuxLeaks, où Antoine Deltour, qui vient d'être reconnu comme étant lanceur d'alerte il y a 2 jours, a porté à la connaissance du public que 330 multinationales avaient ces accords secrets avec le Luxembourg et payaient aussi 0, quelque chose d'impôts. Donc, le problème est gravissime. Il vient du fait que nous autorisons une fiction juridique qui est qu'une multinationale peut avoir des centaines ou des milliers de filiales et que chaque filiale est taxée à part. Et donc, c'est là où on utilise toutes sortes de mécanismes pour réduire artificiellement le bénéfice, avec beaucoup de mécanismes que je ne peux pas expliquer ici. Et donc, la solution à ce problème, c'est la taxation unitaire de Veolia, de toutes les multinationales comme une seule unité qu'ils sont. Le reste est complètement artificiel. Et ça fait l'objet d'un grand travail au sein de l'Union européenne, au sein de la Commission et du Parlement. Le texte a été voté par le Parlement il y a quelques mois et c'est l'axis, c'est l'assiette commune consolidée d'impôts pour les multinationales. Après, on répartit entre les différents États membres le produit ainsi récolté. Ça mettrait fin à tout. C'est bloqué au Conseil parce que il y a un certain nombre d'États membres qui vivent en volant le produit fiscal de leurs voisins, comme l'Irlande, le Luxembourg, le Pays-Bas, Chypre et Malte. Donc, au Conseil, ces États-là vont pas laisser partir leur business model. Donc, il va falloir une volonté politique pour passer outre. Et ça, nous avons dans le traité le moyen qui est l'article 116. Bon, en attendant cela, Monsieur Macron, notre président Macron propose, comme vous le savez, de taxer, d'instaurer une taxe sur les bénéfices.
Sur le chiffre d'affaires.
Sur le chiffre d'affaires. De l'ordre de 3%, et donc le chiffre d'affaires étant les redevances versées par exemple sur Airbnb ou les produits de publicité récoltés. Et donc il y a actuellement une directive proposée pour que nous mettons en place cette taxation sur le chiffre d'affaires.
Seulement, Clémentine Forissier, il y a eu une réunion des ministres des Finances la semaine dernière, le week-end dernier, à Sofia en Bulgarie, et Bruno Le Maire, le ministre des Finances et de l'économie française, était très décidé à faire passer cette taxation par défaut des chiffres d'affaires, notamment des GAFA, mais pas seulement, hein. Les GAFA sont un peu la partie émergée de l'iceberg numérique, et il pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste, sauf que trois pays se sont opposés, Malte, l'Irlande et le Luxembourg, qui représentent 5 millions d'habitants, 1% des habitants de l'Union européenne. C'est assez difficile quand même de mettre en place cette taxation et cette... ce qu'on peut appeler vers une harmonisation fiscale.
Je pense pas du tout qu'ils pensaient que ce serait que ça passerait comme une lettre à la poste. D'autant plus que, en fait, c'est cette question là que vous soulignez. C'est il y a eu une initiative de 4 pays en septembre dernier, dont la France était à l'origine. La France poussait beaucoup pour sur ce dossier là. Et ils étaient même prêts à faire ce qu'on appelle une coopération renforcée, c'est-à-dire se dire bon, si tous les 28 sont pas d'accord pour avancer sur ce dossier, nous on va y aller à peu nombreux. Le problème, c'est que, en fait, si vous avancez à peu nombreux sur ce genre de sujet, déjà l'Union européenne, c'est un cercle qui peut paraître restreint, parce qu'en fait, ce qui serait mieux, c'est de pouvoir avoir ce genre d'initiative au niveau international. D'ailleurs, il y a des initiatives, il y a des réflexions en cours depuis un long moment au niveau du G20. L'OCDE travaille beaucoup sur ces questions. Mais donc, je pense pas que les Français pensaient que ce serait simple à faire passer. Je dirais même plus que les questions de fiscalité en Europe sont cruciales, mais extrêmement difficile. Le projet d'assiette commune consolidée dont on parle là, ça fait des années qu'il est sur la table et qu'il est bloqué, parce qu'il faut l'unanimité en fait pour se décider sur ces sujets-là. Ce qui est donc la question qui sera liée au numérique, à la taxation des entreprises du numérique, sera hyper compliqué à faire passer.
Alors évidemment, comme l'a dit Eva Joly, il y a toujours un pays qui bloque, c'est souvent l'Irlande, les Pays-Bas, Chypre, Malte et le Luxembourg.
Pour c'est aussi l'Allemagne, malheureusement. Parce que l'Allemagne ne veut pas tendre les relations avec les États-Unis parce qu'elle a peur pour les Mercedes qu'elle exporte.
Les Mercedes, les Audi et les grosses BMW. Voilà. Alors, justement, Eva Joly, une petite question politique. Est-ce que, sans un accord franco-allemand sur cette décision de taxer les GAFA, là encore, c'est la partie émergée de l'iceberg. Est-ce que l'Europe peut avancer ou non?
C'est sûr que le couple franco-allemand est le moteur des réformes. Donc, c'est la base prérequis. Moi, je compte beaucoup sur l'opinion publique. Je compte sur l'opinion publique allemande pour dire à leur gouvernement qu'ils doivent, pour l'Axis, y aller, par exemple. Et je compte aussi sur notre président pour avancer. Parce qu'il faut bien comprendre que la taxe sur le chiffre d'affaires, elle ne peut être que temporaire. Elle ne règle pas le problème. Seul l'Axis réglera le problème.
Alors, Éric Landry, vous êtes un acteur, vous êtes le président de Quant, une entreprise petite, une grosse start-up, on va dire aujourd'hui, hein,
un peu ça.
Vous m'avez dit en hors micro 164 salariés. Alors c'est déjà pas mal, 164 salariés, mais par rapport aux géants, évidemment, vous êtes le petit pousset, hein, vous l'admettez bien volontiers, j'imagine.
Oui,
alors quand on est sur ces problèmes de taxation, 3%, 4%, des chiffres considérables, comment voyez-vous cela? J'imagine que vous ne gagnez pas encore beaucoup d'argent, vous êtes encore dans une phase de développement, donc vous n'en gagnez pas. Mais le thème de la fiscalité et des impôts que ici autour de cette table nous payons tous en tant que citoyens et que certains se débrouillent pour ne pas payer.
Je vais vous faire sourire, hein, j'ai déjà payé plus d'impôts en France que Google puisque j'ai déjà été une année profitable. Donc j'ai payé mes impôts. Donc pour revenir à des choses claires, j'ai deux choses à dire très très importantes. Je pense qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, c'est la puissance politique qui se cache derrière ces acteurs économiques. Je vais vous donner un cas très concret. Le RGPD, on vient de voir la loi d'application dans le droit français qui a été validée lundi dernier, et maintenant il y a saisie du Conseil constitutionnel, parce que lundi dernier la France a été plus que courageuse en choisissant une application du règlement des protections des données fort. Et comme de par hasard, juste derrière, saisie du Conseil constitutionnel pour faire annuler la partie qui gêne le voisin. Et la partie, elle est très simple, c'est de remettre le mot « économique » pour permettre d'utiliser des chèques pour être de nouveau installés par défaut dans les téléphones et autres. Donc ces gens-là sont prêts à aller très loin parce que c'est des milliards à perdre, des dizaines de milliards à perdre, ne serait-ce que les impôts. On a parlé 13 milliards tout à l'heure pour Apple, ça serait 20 ou 30 milliards pour Google en l'occurrence. Donc vous avez 10 milliards à perdre, 20 milliards à perdre. Je peux vous dire, moi, que vous passez votre temps chez les hommes politiques, chez les présidents et ailleurs. Et celui qui était le plus reçu aux États-Unis à la Maison-Blanche pendant l'ère Obama, c'était les lobbies de Google, c'était Google lui-même. Donc ces gens-là et les liens avec les pays, NSA et autres CIA qui ont été dénoncés, ça veut dire que c'était un problème politique très fort et de contrôle du monde très fort. Donc sachez juste qu'aujourd'hui, Quant paye ses impôts en Europe et sachez que ça donne un vrai impact. Les Français sont très contents de passer sur un moteur qui va payer ses impôts en bas de chez lui, qui a des employés juste devant qui payent leurs impôts. Et puis les Allemands, c'est pareil. Vous avez des services aujourd'hui éthiques et propres qui commencent à émerger et dont les gens sont très heureux d'aller vers ces gens-là. Parce qu'ils savent que c'est chez eux, que ça va être payé, que c'est éthique. Et d'ailleurs, c'est drôle, toutes les sociétés qui ont décidé de prendre ce pari-là commence à avoir des gens qui les regardent de façon très différente, même quand elles viennent des États-Unis, parce qu'il y en a qui viennent des États-Unis et qui ne se sont pas mis au Caïman, qui ne se sont pas mis au Luxembourg, ça existe, il y en a, donc regardez et vous allez voir que le switch, il peut être du côté des utilisateurs. Mais moi je vous dis, aujourd'hui, il y a un vrai problème, j'espère que le Conseil constitutionnel aura le courage d'aller au bout de la loi qui a été votée, parce qu'aujourd'hui, le problème est très fort au niveau des lobbyistes. C'est juste impressionnant.
Les lobbyistes, évidemment, qui sont très très nombreux à Bruxelles. Clémentine Forissier, vous allez avoir le mot de la fin. S'il se passe quelque chose, si le monde évolue, ça va être quand même grâce à l'Europe.
Disons que les Européens ont une carte à jouer sur ce sujet qui est très fort et ils font des choses. Après, il ne faut pas qu'ils faiblissent non plus et vous l'évoquiez par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire que dès lors qu'il s'agit de réglementer chez eux, ils ont du mal mais ils y arrivent, les Européens. Dès lors qu'il s'agit notamment sur ces questions d'affronter les Américains, là pour le coup en général, ils sont beaucoup plus faibles parce qu'ils ont chacun des intérêts divergents avec les États-Unis. Et donc oui, là, il y a vraiment quelque
la
chose à faire.
La diplomatie européenne au pied du mur avec ce qui se passe, la rupture de l'accord avec l'Iran, évidemment, ce sera l'objet d'une prochaine émission de Carrefour de l'Europe. Merci à tous les quatre d'avoir été à ce Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Uni avec Maria Afonso et Sacha Mitchell du Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter cette émission et toutes celles qui l'ont précédée, il vous suffit de taper Carrefour de l'Europe RFI sur le moteur de recherche Quant, Q-W-A-N-T, ou via RFI.fr ou les applis mobiles de RFI, elles sont évidemment gratuites. On reste en contact via Facebook et Twitter et là on comprend qu'on est dans un monde complexe et difficile. Daniel Desesquelles, où que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.